Les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Dominic Raab, un eurosceptique, a été nommé aujourd'hui ministre du Brexit du gouvernement britannique après la démission la veille de David Davis en désaccord avec les orientations de la première ministre Theresa May, a annoncé Downing Street. Monsieur Raab, âgé de 44 ans, était jusqu'ici secrétaire d'État chargé du logement après avoir occupé le poste de secrétaire d'État à la justice dans le gouvernement de Theresa May. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump devrait annoncer ce soir son choix pour le poste de juge à la Cour suprême des États-Unis, un magistrat qui sera vraisemblablement très conservateur et dont les décisions seront lourdes de conséquences pour l'évolution de la société américaine. Cette nomination découle du départ à la retraite inattendu du juge Anthony Kennedy, l'un des 9 sages de la haute cour nommé à vie. Ce sera la seconde depuis l'entrée en fonction du président qui avait déjà choisi un jeune conservateur, Neil Gorsuch, en 2017. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, lui, il a rencontré dimanche pendant plusieurs heures le bras droit de Kim Jong-un à Pyongyang. Les pourparlers difficiles visaient à préparer une feuille de route afin que la dénucléarisation prenne forme. Idriss Assaidoudia.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exhorté hier la Corée du Nord à suivre l'exemple du Vietnam en forgeant une nouvelle relation avec les États-Unis, tout comme l'a fait Hanoï plus de 4 décennies après la guerre du Vietnam et l'engagement militaire américain dans ce pays. Monsieur Pompeo parlait à Hanoï à l'issue de 2 jours de pourparlers à Pyongyang sur le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen. Il a à ce propos minimisé les accusations de Pyongyang qui, qualifiant de regrettable ces pourparlers, a dit que les États-Unis avaient fait des demandes similaires à celles de gangsters en réclamant l'abandon de son programme nucléaire.
Merci Idrissa. Le président Recep Tayyip Erdogan, le président turc, entame aujourd'hui un nouveau mandat de 5 ans avec de vastes pouvoirs sous un nouveau système dénoncé comme autocratique par ses détracteurs, 2 ans après avoir échappé à un putsch militaire. Au pouvoir depuis 2003, d'abord comme Premier ministre, puis président. M. Erdogan, âgé aujourd'hui de 64 ans, a été confortablement réélu le 24 juin, remportant l'élection présidentielle dès le premier tour. Le chef de l'État turc va prêter serment à 13h GMT, puis va présider une cérémonie au palais présidentiel, inaugurant une nouvelle ère dans l'histoire moderne de la Turquie, avec le passage au système présidentiel au terme d'une révision de la Constitution adoptée étroitement par référendum en avril 2017. Au moins 14 personnes civiles et forces de l'ordre ont été tuées dimanche dans le sud-ouest du Nicaragua lors d'affrontements entre des forces gouvernementales et des opposants au président Daniel Ortega, alors que le pays est secoué par une vague de contestation pour exiger le départ du président qui a exclu des élections anticipées. Les forces gouvernementales, notamment des forces anti-émeutes et des paramilitaires, ont mené une incursion dans 2 villes du département de Carazo, Diriamba et Jinotepe pour démanteler des barrages érigés par des opposants.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Kinshasa dit non à une délégation de haut niveau des Nations Unies et de l'Union africaine. Selon un conseiller du président congolais, Joseph Kabila, la visite du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine en République démocratique du Congo est inopportune en cette période préélectorale. Dans une conférence de presse à la fin du mois de janvier, le président Kabila avait lui-même critiqué la mission de l'ONU en RDC, demandant qu'elle quitte le pays au plus tard en 2020. Au Tchad, les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux devant aboutir à la décrispation de la crise sociale sont bloquées. Les deux parties durcissent leur position et les perdants dans ce bras de fer, ce sont les élèves qui doivent passer le baccalauréat l'édition 2018. C'est dans cette condition que le gouvernement continue d'organiser donc ses examens et concours de fin d'année, les syndicats étant profondément divisés. Écoutez quelques enseignants tchadiens plutôt mécontents de la tournure que prennent les événements.
Nous sommes parents, mais il faut que les programmes soient quand même finis pour que nos enfants aient dignement leur diplôme.
Les camarades syndiqués qui sont sur le terrain, je dirais que c'était des traîtres.
C'est anormal ce que les autres ont fait. On dit solidarité, mais il n'y a pas la solidarité chez nous.
quelques enseignants tchadiens au micro de notre correspondant sur place. Le principal syndicat gabonais du secteur pétrolier a lancé aujourd'hui un mot d'ordre de grève de 15 jours à Total Gabon après l'échec de négociations concernant les conditions salariales. La grève couvrira l'ensemble des installations où opèrent les salariés de Total Gabon, indique lundi un communiqué de l'Organisation nationale des employés du pétrole, l'ONEP. Le groupe pétrolier français emploie quelque 300 personnes au Gabon, dont 60 expatriés, selon le secrétaire général de l'ONEP, Sylvain Mayabi. Les Maliens ne se bousculent pas pour retirer leur carte d'électeur à 3 semaines seulement de la présidentielle. L'administration met donc les bouchées doubles pour combler cette lacune. Pendant ce temps, la campagne bat son plein. Retrouvons à Bamako notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la mobilisation continue autour du retrait des cartes d'électeurs, car le taux de retrait national est de 14%.
Véritablement que les gens aillent retirer les cartes d'électeurs biométriques. Si quelqu'un veut voter, il doit avoir sa carte d'électeur. C'est la raison pour laquelle les OEC iront jusqu'au samedi 28 juillet pour dire aux gens d'aller retirer les cartes d'électeurs.
Afin d'accentuer cette sensibilisation, les femmes ont été sollicitées. Traoré Oumoutouré, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.
Les femmes doivent sortir, aller chercher leur carte d'électeur et aller voter. Et la plus grande chance pour les femmes d'aller prendre leur carte d'électeur et d'exercer leur citoyenneté. Elles ne peuvent pas dire qu'elles ont des conditions mauvaises, qu'elles ont tel ou tel problème sans avoir la carte. Et je pense que c'est l'occasion pour les femmes du Mali d'être ensemble en groupe et d'aller prendre leur carte d'électeur et voir les programmes qui marchent, les programmes qui parlent mieux, qui veulent renverser les tendances pour elles.
Sur le terrain, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta était dans le plus grand stade du Mali alors que son challenger de 2013, Soumaïla Cissé, avait investi le boulevard de l'indépendance. Tous les deux ont parlé du programme et sensibilisé leurs partisans afin qu'ils sortent massivement le 29 juillet prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rencontrera le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ce soir à Addis Abeba, selon des sources onusiennes en Éthiopie. La visite du chef de l'ONU intervient au lendemain de l'annonce par le premier ministre éthiopien de la normalisation des relations de son pays avec l'Érythrée, à l'issue d'une rencontre avec le président érythréen à Asmara. C'est une percée après 20 ans de relations chaotiques entre les deux voisins. Bagassi Koura.
Cette annonce survient après des semaines de rapprochement entre les deux pays qui ont culminé avec des drapeaux éthiopiens flottant au vent et les acclamations de la foule massée le long des rues de la capitale érythréenne pour saluer Abiy Ahmed. Nous nous sommes mis d'accord pour la reprise du trafic aérien et naval pour la circulation des personnes entre nos deux pays et la réouverture des ambassades, a déclaré Abiy Ahmed à l'issue des discussions avec le président Isaias Afewerki. Plus tôt, les deux dirigeants s'étaient déjà mis d'accord pour établir les liaisons téléphoniques internationales entre les deux pays. La télévision officielle de l'Érythrée avait montré les deux dirigeants s'étreignant à l'aéroport. Une scène inimaginable il y a encore quelques mois. Les plus hauts dirigeants des deux pays ne s'étaient pas retrouvés depuis près de 20 ans. Le sommet de dimanche fait suite à l'annonce par M. Abiy le mois dernier de la volonté de l'Éthiopie de céder à l'Érythrée un territoire frontalier disputé, un territoire que l'Éthiopie occupe toujours malgré un jugement d'une commission indépendante internationale soutenue par l'ONU datant de 2002.
Le fils de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, Dudu Sen Zuma, a été inculpé de corruption dans l'un des nombreux scandales liés à la sulfureuse famille d'hommes d'affaires Gupta qui ont précipité la démission de son père en février. Âgé de 34 ans, Dudu Sen Zuma est accusé d'avoir participé en octobre 2015 à une rencontre au cours de laquelle un des frères Gupta, Ajay, a proposé le poste de ministre des Finances à Msebisi Jonas, qui était alors vice-ministre. À l'issue d'une brève audience, un tribunal de Johannesburg l'a remis en liberté sous contrôle judiciaire en échange d'une caution. Et puis, 6 membres des forces de l'ordre ont été tués dimanche dans le nord-ouest de la Tunisie dans une attaque terroriste, selon les autorités, l'attaque la plus meurtrière depuis plus de 2 ans. 6 agents des gardes nationales ont été tués et 3 blessés lorsque leur voiture a été attaquée dimanche matin avec un engin explosif artisanal près de la frontière avec l'Algérie. Jean-Roger Billon, fin de ce journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.